Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, c'est Constance. Pas de panique, votre épisode arrive juste après cette présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, plus lumineuse que la précédente. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant j'aime vous partager une proposition de podcast juste avant mon épisode. Si vous êtes comme moi, tombé dans la marmite des podcasts, et que vous manquez de temps pour partir à la recherche d'épisodes inspirants dans cette vaste bibliothèque que sont les plateformes de podcasts, je vous ai déniché la solution idéale. Il existe un podcast tout fraîchement créé qui a pour objectif de vous faire découvrir les épisodes inspirants, bouleversants ou même marrants, bref, marquants et à ne surtout pas rater, et ce, tout sujet confondu. Allez, trêve de suspense, je vous révèle le nom de cette pépite. Il s'agit de Génération Podcast. Chaque dimanche, Anne Fleur, officiellement boulémique de podcast, vous propose une sélection de 3 épisodes qui l'ont touchée, marquée ou émue. Et un dimanche sur deux, elle vous propose une rencontre avec un ou une hôte de podcast pour vous dévoiler les coulisses de vos podcasts favoris. Alors ce n'est pas le meilleur tips de l'année 2021 ? Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Je vous retrouve aujourd'hui dans cet épisode, comme je vous l'ai dit mercredi, pour aborder à nouveau une méthode de conception que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises, l'insémination artisanale. Dans les épisodes 2, 15 et 23, Floriane, Barbara et Marion vous expliquent pourquoi et comment elles ont opté pour cette méthode de conception. Oui, mais cette méthode propose des variantes. La plus connue et la plus facile d'accès est l'insémination artisanale. Celle pratiquée en milieu médical, dans les centres de PMA ou dans les cliniques, et l'insémination intracervicale, dont la particularité est de passer le col via une canule. Les statistiques n'en sont que meilleures, évidemment. Et ça, Aurélia et Charlotte l'ont découvert au fur et à mesure de leurs réflexions et de leur accompagnement par des professionnels bienveillants et conciliants. Ça n'a pas toujours été le cas pour elles, mais elles ont trouvé les professionnels vers qui se tourner. À mon micro, Aurélia, @Auréchamé, nous raconte dans cette première partie d'épisode sa rencontre avec Charlotte et l'acceptation de leur relation par leur famille, ainsi que les étapes qui les ont amenées à envisager de pratiquer elles-mêmes ce geste médical parce que leur décision est réfléchie et qu'elle leur ressemble. Elles ont fait un bébé toutes seules, elles ont fait un bébé homemade. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélia.
Bonjour.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible.
Merci à toi.
Donc aujourd'hui, je suis venue vers toi parce que je suis ton compte sur Instagram depuis un petit bout de temps et que je suis très curieuse de connaître votre histoire, qui a l'air, comme celle que j'ai déjà interviewée, très belle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me raconter un petit peu ta famille ?
Alors, moi je m'appelle Aurélia, j'ai 31 ans, je suis mariée à Charlotte. On est les mamans d'une petite Amae qui vient de fêter ses 1 an. Et on a aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre petite chienne qui vient du bout du monde, Peach.
Peach, c'est trop chou comme nom. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Charlotte ?
Ça fait très longtemps. On s'est rencontrés fin 2004. Donc j'avais 16 ans à l'époque.
Oh là là.
Ouais, on était encore des bébés. Elle avait 18 ans et moi 16. Mm-hmm. C'est via un Skyblog, à l'époque où il y avait les Skyblogs.
C'est vrai. C'est vrai que c'était ça.
C'est ça. En pleine adolescence, j'ai laissé un petit message sous une photo de son blog. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à se rencontrer. Et quelques semaines après, elle est devenue ma première amoureuse.
D'accord. Et alors, vous habitiez la même région à l'époque ?
Alors, on était dans le même département, mais on ne se connaissait pas du tout. On était séparés par quelques kilomètres. Mais on n'aurait jamais pu se rencontrer, en fait, sans Internet à ce moment-là.
D'accord. Donc, comme quoi, Internet, finalement, ça a aidé, on le sait, hein, mais ça aide énormément dans les rencontres, surtout pour nos couples à nous qui sont plus difficiles, je pense, à se former.
Donc, suite à ça, les choses se sont compliquées par rapport à ma vie, en fait, par rapport à l'acceptation autour de nous. Donc, les choses se sont compliquées. Et au fur et à mesure, on en est venu à être entièrement séparés. Au bout d'un peu plus d'un an et demi, quelque chose comme ça, notre histoire s'est réellement terminée. Puis, on a continué nos vies. Et au final, en 2008, on s'est retrouvés et puis on ne s'est plus jamais quittés.
D'accord. Tu me parles de la difficulté de l'acceptation qui a amené à la fin de votre première histoire, on va dire. Ouais. Vous étiez toute jeune, effectivement, Donc je pense que ça influe énormément sur vous, la vie des autres, on va dire.
C'est ça.
C'est plus une difficulté d'acceptation familiale ou c'est global ?
Alors, je dirais que c'est très global, avec quand même une part de la famille. Voilà, moi... On vient toutes les deux de petits villages où on est très loin de tout ça. Voilà, ça a été vraiment très compliqué, surtout de mon côté, avec une famille qui, sur le coup, ne l'a pas appris avec grande joie, on va dire. Donc, ça a compliqué nos rapports. Et puis, l'adolescence au milieu n'aide clairement pas les rapports aussi.
Oui, non, ça c'est sûr.
Les adolescents ne sont pas forcément tendres avec la différence.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Et sachant que moi, à l'époque, je ne voyais pas où était le souci. Donc, je voulais vivre ma vie comme tous les autres, à part que dans les petits villages d'où on vient, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc, petit à petit, voilà, tout s'est compliqué, plein de problèmes se sont greffés, et puis l'adolescence. Et puis, voilà. Il fallait faire aussi des expériences, et puis bon, voilà.
Exactement. Et des fois, c'est comme ça qu'on se retrouve mieux.
Exactement. Une fois un peu plus grande.
Voilà. Et donc, en 2008, vous vous retrouvez, vous habitiez toujours dans les mêmes villages ?
Alors, elle était partie sur Toulouse pour ses études. Moi, j'étais en train de passer mon bac, donc je vivais toujours chez mes parents. Donc, on a repris notre histoire un peu très discrètement, cette fois-ci.
Oui.
Jusqu'à que j'ai mon bac et que je parte pour mes études et que je puisse commencer plus facilement notre vie.
Et donc, du coup, tu es partie sur Toulouse ?
Alors, je suis partie sur Pau. Elle m'a rejoint. Elle a fait en sorte d'être pas loin. Puis ensuite, j'ai passé un concours pour entrer dans une école. J'ai obtenu l'école de Toulouse et donc elle m'a suivie aussi. Et puis, on a toujours fait en sorte de se suivre. Et ensuite, c'est elle qui a eu l'occasion de partir travailler... dans les Landes, et donc j'ai tout fait pour la suivre. Et donc depuis, on a posé nos valises ici, sur la côte landaise.
Très jolie côte.
Oui.
Et alors, vous avez habité ensemble assez rapidement, ou seulement depuis que vous êtes dans les Landes ? Enfin, comment ça s'est fait entre vous ? Comment ça a grandi à nouveau, en fait ?
Quand je suis partie donc, pour ma prépa à Pau, j'ai eu mon appartement, financé par papa et maman, qui m'ont soutenue dans ma scolarité.
Comme
même s'ils soutenaient pas forcément ma vie personnelle et amoureuse, ils m'ont toujours soutenue sur le plan scolaire, financier, enfin voilà. Donc je suis partie sur Pau avec mon propre appartement, mais très concrètement, elle était là à peu près tout le temps. Même si c'était caché, elle était là, mais c'était évident. Enfin, c'était... De toute façon, depuis toujours, nous deux, c'est évident, c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Donc, donc ça s'est fait. Et puis ensuite, par contre, comme j'ai réussi à entrer dans l'école que je voulais, j'ai officialisé clairement notre relation auprès de mes parents et leur ai dit qu'à partir de septembre, je comptais vivre avec Charlotte. Donc, en septembre, nous avons emménagé ensemble à Toulouse et puis... Et depuis, on déménage tous les deux ans jusqu'à quand on soit posé ici.
Et comment tes parents ont accueilli la nouvelle ?
Au moment où je leur ai re-annoncé officiellement, j'étais majeure. Donc, je pense que ça a changé un peu la donne, sachant qu'entre-temps, quelques années s'étaient passées. Scolairement, j'avais montré que je m'étais rattachée à tout ça. Donc, on va dire que j'avais fait un peu mes preuves et j'avais montré que, que ma vie ne serait pas que chaos.
Oui, ce que pensent souvent les parents quand on leur dit qu'on voilà. est homosexuel.
C'est ça. Donc, on va dire que j'ai fait mes preuves. Et puis, petit à petit, je pense, voilà, ils ont fait le chemin de leur côté. Je leur ai laissé beaucoup de temps aussi pour le faire, ce chemin-là. Je ne me suis jamais braquée. Et donc, le jour où je leur ai annoncé, bon, ce n'était pas une grande surprise. Hein, parce que ça reste des parents et ils ressentent les choses et ils les savent. Donc, ce n'était pas une grande surprise. Ça a été, ben oui, d'accord. Et il nous a fallu bien... on a aménagé pendant l'été... Il a fallu une année scolaire pour qu'ils acceptent enfin de la rencontrer. Donc, ça faisait peut-être déjà à nouveau 2 ans, 3 ans qu'on était ensemble.
Oui, bon, il faut toujours laisser faire le chemin. C'est un peu compliqué, mais, bon, voilà, ils y arrivent. C'est ça, le point essentiel, c'est que la plupart du temps, alors évidemment pas tout le temps, hélas, mais la plupart du temps, les parents y arrivent. Et pour Charlotte, ses parents, ça s'est passé comment ?
Alors, c'est divisé aussi, son papa. J'ai l'impression que pour nos pères, ça a été quand même quelque chose de beaucoup plus facile à accepter que pour nos mamans. Mon père aussi, c'était relativement simple pour lui. Mais je pense que dans un couple, il faut se soutenir. Donc, voilà.
Complètement.
Donc, il était aux côtés de ma mère. Mais voilà, pour Charlotte, son père, depuis le début, il n'y a aucun souci. Tout est facile. Sa maman, au début, c'était à peu près facile, mais avec les années, les choses se sont compliquées. Et non, voilà, c'est pas...
D'accord, elle a fait le chemin inverse, ta maman.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, je pense que des fois aussi, pour certains parents, quand ils voient que c'est pas qu'une passade, que c'est notre vie qui sera ainsi, et que ça colle pas forcément à leurs attentes et leurs projections, voilà, ça, je pense que ça peut créer des fins.
De la distance.
Voilà.
C'est vrai que ça peut aussi arriver. Après, aujourd'hui, je pense que ça n'a pas remis en question, et a priori, c'est le cas, votre amour.
Absolument
ni
pas.
Votre couple. C'est bien l'essentiel. Et alors, du coup, revenons-en à tes études. Donc, tu fais ta prépa à Pau, tu rentres à Toulouse à l'école, donc vous emménagez ensemble. Est-ce que vous aviez, à un moment donné, dans votre histoire, évoqué la parentalité ou pas ? Est-ce que c'était une évidence ou pas ? Est-ce que tu peux m'en parler ?
Depuis toujours, il était évident que nous aurions des enfants ensemble. C'était sûr. Enfin, moi, à titre personnel, je crois que depuis toujours, je ne voyais pas ma vie autrement qu'avec des enfants.
Indépendamment de ta sexualité, du coup ?
Ah oui, complètement. Après, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué cette histoire. Mais,
quand même.
Mais voilà, parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi avec... un modèle, mais vraiment très hétéro. Enfin, moi, mis à part à la télé, pour moi, c'était que dans les films, quoi. Donc, j'étais pas du tout... Non, j'étais très loin de tout ça. Donc, pas concernée. Donc, le jour où je me suis dit, bon, dis donc, en fait, c'est pas ce que je m'étais imaginé. Je me suis dit que ça allait un peu compliquer les choses. Mais bon,
d'accord, mais t'avais pas de notion... Oui, mais t'avais pas de notion de comment tu pouvais envisager la parentalité.
Non. Bon, après, j'avais accès forcément à Internet, les médias, tout ça, diffuse. Mais tout ça me semblait être un autre monde.
Et pour Charlotte ?
Pour elle aussi, c'était évident qu'elle aurait des enfants. Je crois qu'en fait, on n'avait jamais abordé la question de comment. C'était juste qu'on se projetait qu'un jour, il serait là.
D'accord. Et alors, comment vous avez abordé le comment il serait là ?
On va dire qu'initialement, c'était imaginer ce qu'on voyait à la télé. C'est-à-dire qu'on avait vu quand même pas mal de reportages sur tous ces couples qui allaient en Espagne, en Belgique. Voilà, on s'imaginait qu'on allait forcément passer par ce parcours-là. Donc, on était parti un peu sur cette idée-là, en se disant, bon, il va nous falloir beaucoup d'argent dans cette histoire. Il va falloir bien tout penser. Et ça nous semblait quand même être une montagne en termes d'organisation. Mais on se disait, bon, beaucoup passent par là, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et on s'était surtout dit, depuis le début, nous, on s'imaginait que ça allait être un parcours long et compliqué. Voilà.
Oui.
On était vraiment partis dans cette optique-là.
Après, c'est vrai que c'est souvent l'image qui est véhiculée par les médias. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Hein. Mais ce n'est pas si compliqué que ça.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je trouve que l'accès aux informations... on l'a si on les cherche, mais je veux dire, dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours, je trouve qu'on... On n'a pas. Tout ça n'est pas palpable, quoi. Tout nous semble très abstrait, un monde vraiment. Enfin, moi, je trouve que de notre position, tout est lointain. Donc, on était parti vraiment dans cette idée-là.
Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que vous aviez la facilité géographique de la proximité espagnole.
C'est ça, exactement.
Donc, je suppose que vous avez dû réfléchir à cette option-là.
C'est ça. Donc, initialement, on s'était dit, bon, ben voilà, ça semble être que ce chemin-là, donc partons sur ça. Ce qui était bizarre aussi, c'est que depuis toujours, c'était évident qu'on aurait des enfants. Mais la question du quand, aussi, je trouve, prend beaucoup de place dans notre vie parce qu'on se dit, il va falloir commencer relativement tôt. Parce que si ça doit durer longtemps, il ne faudrait pas qu'après on soit rattrapé par le temps qui passe et par notre corps.
Ben oui.
Donc il y avait cette question-là. Et puis en même temps, ça voulait dire plus ou moins rapidement. Et moi, je ne me sentais pas forcément prête. Enfin, je trouvais que toutes ces questions-là étaient un peu compliquées pour se lancer.
Et mais là, on se situe quand à peu près dans le temps? Vous avez commencé à vous poser ces questions-là vers quelle période?
En fait, on s'est mariés en 2016. Donc ça nous semblait logique que ça allait suivre.
D'accord, ok, oui. Vous aviez en tête de vous marier avant de faire vos enfants.
Oui. Alors, on est très traditionnels, hein.
Nous, très conventionnels.
On a été longtemps ensemble, on s'est mariés, on a construit une maison, on a pris un chien et après, il nous fallait un enfant. Voilà, on ne peut pas faire plus traditionnel et ordinaire que nous, hein.
Oui, je vois ça.
Donc, c'était la logique. Voilà, donc, il fallait suivre ce chemin-là. Et donc, je m'étais imaginée dans mes fantasmes d'enfant adolescente qu'à 27 ans, je serais mariée avec un enfant. Oui, bon, à part qu'à 27 ans, j'étais mariée, mais moi, j'avais juste super peur. Donc, en fait, on s'est dit, c'est pas l'heure, on n'a pas le temps, on en parlait de temps en temps. Mais il fallait attendre, je pense que moi, j'accepte de me lancer dans cette aventure.
Ouais, c'était toi qui étais plus en frein pour le coup.
Oui.
Plus précisément parce que tu étais dans la peur en fait.
Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est évident aussi depuis toujours que ce serait moi qui porterais nos enfants.
Voilà, j'allais y venir. D'accord. C'était évident pour toi, mais est-ce que c'était évident pour Charlotte?
Oh que oui.
D'accord. Au moins vous étiez raccord.
Ah mais oui, c'est ça qui est génial aussi.
Ouais, c'est
parce
clair.
Parce que nous, ces questions-là, c'est vrai que ça n'a jamais été un problème. Voilà, c'était écrit, elle, on lui pose la question, pour elle, c'est non, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place dans mon ventre, et elle était prête à le faire si et seulement si ce n'était pas possible pour moi.
Ouais. Voilà. D'accord, elle n'aurait pas renoncé à avoir un enfant, elle n'aurait pas renoncé à avoir un enfant pour ne pas porter.
Non.
D'accord.
Non. Mais voilà, comme je dis, c'était la route secours.
Oui, et c'est vrai que du coup, il fallait obligatoirement que toi, tu sois prête à porter.
C'est ça.
Donc,
il fallait attendre. Il fallait que j'ose. Parce que je me rends bien compte qu'on n'est jamais réellement prêt.
Non.
Mais il fallait que je fasse ce... C'est ça. Que j'accepte de ne pas être prête pour qu'on se lance.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Donc, un jour, j'ai accepté qu'on se lance. Petit à petit. J'avais surtout besoin aussi d'être rassurée par rapport à ma capacité. J'ai toujours beaucoup douté de mon corps aussi. Donc,
d'accord.
Il fallait que je me rassure, être sûre que je serais capable, que mon corps est en capacité de créer et donner la vie.
Mmh.
Donc, j'ai commencé à étudier, en fait, mon corps, à étudier mon cycle, à prendre ma température tous les matins, à faire des tests d'ovulation. Voilà, j'ai commencé tranquillement.
Ah oui, t'as quand même bien étudié. Enfin, oui, tranquillement, mais
Oui.
Voilà, tu t'es organisé, quoi.
Oui, je suis quelqu'un de très, très organisé.
D'accord.
Donc, on a commencé comme ça en douceur. Et puis, j'ai vu que, ça tournait pas mal quand même. Que mon corps, il avait l'air de faire le job.
A priori, t'as vu régulièrement.
Donc, ça a commencé à me rassurer. À ce moment-là, on est dans l'été 2018. Quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc, je commence à me rassurer. Je prends rendez-vous avec... ma sage-femme, parce que on a une sage-femme qui fait notre suivi gynéco, avec qui on a de très bons rapports, donc je prends rendez-vous, je lui en parle. Donc elle est à fond derrière nous, elle nous encourage, elle croit en mon corps, en mes capacités. Et suite à ça, j'en parle un jour en story sur Instagram, en disant, voilà, en annonçant un peu qu'on va se lancer d'ici pas très longtemps. Et là, j'ai quelqu'un qui m'écrit. Et qui me parle, qui me dit « Ah ben super, est-ce que vous savez que vous avez d'autres possibilités que ces cliniques espagnoles ?» parce que nous, on était vraiment partis forcément sur l'Espagne, vu qu'on est à côté.
Mais oui, complètement.
Donc, je lui dis, bah non. Et donc, elle me parle de Krios. À ce moment-là, j'en ai jamais entendu parler. Ça me dépasse un peu. Et puis, quand même, ça...
Ça fait son petit bonhomme de chemin.
Je me pose des questions. Et puis, l'après-midi même, je commence à retourner tout Internet. Et puis, je découvre l'existence de tout ça.
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que Krios ?
Alors, Krios, c'est une banque de sperme danoise.
Auquel on a accès en tant que particulier. Alors, on avait...
Alors, à l'époque, en tant que particulier, c'est ça. Et aujourd'hui, en tant que professionnel. Voilà. Mais à l'époque, en tout cas, cet été-là, c'était encore accessible aux particuliers. J'ai fouillé et j'ai réussi à accéder aussi à un groupe Facebook fermé. Et là, j'ai découvert en fait qu'il existait un monde parallèle. Hein.
C'est souvent qu'on emploie ce terme.
Honnêtement, c'est un truc de fou. Moi, j'ai pas d'autre mot. Le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, mais dans quel monde vit-on ? Donc, j'ai réussi à rentrer tant bien que mal sur ce groupe. Et là, ben, en fait, je crois que c'était lancé dans nos têtes et c'est devenu évident qu'on passerait par ce chemin-là.
Oui, en fait, c'est ça qui a été le déclic, le vrai déclic finalement.
Mm-hmm. C'est ça. Parce qu'en fait, quand j'ai vu le site, ma première réaction n'a pas été ça. J'ai vraiment eu l'impression qu'on faisait son marché. Parce qu'il faut savoir que sur ce site-là, eh bien, on peut tout choisir, tout choisir du donneur, jusqu'à vouloir connaître son identité. Mmh. Et j'ai trouvé ça mais impressionnant et au niveau éthique, je ne savais pas. J'étais vraiment, je savais pas quoi en penser, mais en même temps, ça attisait vraiment ma curiosité et donc le soir, j'en ai parlé à Charlotte et pareil, sa première réaction, ça a été ça, c'est de se dire mais on va pas faire notre marché, enfin.
Oui.
Et puis, en fait, on a beaucoup parlé, ça nous a semblé évident, en fait, en l'opposant au fonctionnement des cliniques et des donneurs complètement anonymes. Nous, il nous a semblé petit à petit évident qu'on voulait des informations. Voilà, c'est quelque chose qui nous ressemblait. J'avais besoin aussi d'avoir des informations sur la santé de ce donneur et de sa famille, parce que c'est des choses auxquelles on a accès par Krios. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, en fait...
Tout le temps, je pense.
Voilà. Et là, on a commencé à chercher des donneurs. Sachant qu'après, voilà, c'était notre choix, mais nous, on ne s'est pas arrêté à des caractéristiques physiques. Mm-hmm. Il y en a qui peuvent, hein, voilà, chacun ses choix. Mais nous, on s'est vraiment lancé dans la recherche de notre donneur. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est lui, c'est pareil, ça ne peut pas être notre. C'était une évidence. Quand on l'a trouvé... c'est quelqu'un qui nous ressemble.
D'accord.
C'est comme ça qu'on a fini par se positionner en se disant bah, c'est lui. C'est lui, c'est évident. Et on saura expliquer avec nos mots à notre futur enfant ce choix-là. Donc on est parti sur ça et on s'est positionné en se disant mais c'est bon, on est sûr de nous.
Ouais, parce que du coup, ça te permettait d'être vraiment droite dans tes bottes, quoi. Enfin, tu connaissais la genèse du. Enfin, voilà, tu maîtrisais en fait la genèse du projet et tout ce qui pouvait intervenir, toutes les personnes qui pouvaient intervenir dans le projet.
Exactement. Et c'est quelque chose qui me rassurait énormément. Ça m'enlevait en fait une part d'inconnu.
Oui, complètement.
Donc on est parti sur ça. À part que ça ne se fait pas comme ça. Donc on est parti à la recherche d'un gynécologue qui accepterait éventuellement de contourner les lois. Bon, on n'a pas trouvé.
Ah bon, voilà, c'est étonnant.
On n'a pas trouvé comme ça, voilà.
Non, c'est pas étonnant. Parce que du coup, tu voulais lui demander quoi à ce gynécologue ?
Moi, ma première base, c'était encore être sûre que mon corps était capable. Donc, dans l'idée, j'aurais aimé avoir un gynéco qui accepte de me faire passer les examens que la plupart des femmes passent pour accéder au PMA à l'étranger. Mm-hmm. Donc, on nous a envoyé vers une gynécologue avec qui ça s'est mal passé.
Elle vous avait été recommandée par qui, cette gynécologue ?
Par une sage-femme.
D'accord, par une sage-femme.
En disant que c'était une gynécologue spécialiste PMA en France, donc pour les couples hétéros. Pourquoi pas ? Ça reste quand même son domaine.
Bah oui, bien sûr.
Donc, cette professionnelle nous a accueillis avec beaucoup d'a priori, surtout avec l'idée de nous envoyer vers une petite clinique espagnole avec laquelle elle avait l'habitude de travailler.
Oui, d'accord. Donc, elle avait quand même cette habitude d'accompagner des couples homosexuels, mais via clinique.
Voilà. Parce que nous, on lui a parlé de Krios. Donc, sa première réaction a été de nous dire qu'elle ne connaissait pas du tout. Puis petit à petit, elle a fini par dire oui, non, mais c'est vrai qu'on les voit beaucoup dans les grands, comment on appelle, dans les grandes réunions. Mm-hmm. Et donc, elle savait très bien. Elle savait très bien, mais on a bien compris que bon, ce n'était pas pour elle. Et donc, elle nous a glissé une petite carte d'une clinique espagnole avec laquelle elle avait l'habitude de travailler, en argumentant et en nous disant, donc son meilleur argument était de nous dire que les Espagnols nous ressemblaient quand même vachement plus que les Danois.
Ah oui, ça c'est un super argument ça. Ouais.
Donc on s'est quitté sur ce dernier argument.
D'accord.
Moi très en colère et déçue.
Ah ben oui, je me doute.
Parce que j'avais l'impression que je remettais un peu notre projet dans les mains d'un professionnel et que c'est lui qui décidait de sa faisabilité ou pas.
Oui, complètement. Tu perdais en fait le contrôle de ce projet.
Exactement. Donc ça a été, on est sorti de là vraiment, c'était dur pour moi. Charlotte, qui est quelqu'un de très calme, apaisée, conciliante, a dit bon, mais elle a peut-être raison, il faut peut-être aller en Espagne, on sera soutenu dans ce parcours-là. Et moi qui suis quelqu'un de beaucoup plus têtu, ben non, on pouvait pas. C'était pas possible. Il était hors de question que d'autres décident pour nous.
Oui, mais surtout que c'était pas du tout le schéma que tu t'étais fait, donc ça te faisait revenir vraiment en arrière.
C'est ça. Donc on s'est dit, ben tant pis pour cette gynéco, c'est pas grave. J'ai repris rendez-vous avec la sage-femme juste pour l'informer que le rendez-vous s'était pas super bien passé et elle en était désolée. Oui, elle en était vraiment désolée.
C'est pas évident.
Elle-même était prête à, voilà, à nous aider à sa hauteur. Mm-hmm. Donc elle m'a dit, mais si tu veux, je peux te marquer une échographie pour aller voir. Enfin, mais elle, dans son discours, au bout d'un moment, ça a été de me dire, bon, ben Aurélia, stop, tu vas bien. Oui. Tu as 30 ans, tu es en pleine forme, tu n'as jamais eu de soucis à ce niveau-là, ton cycle, il est parfait. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Oui, parce que tu craignais quoi ? Tu craignais que ça ne fonctionne pas, mais sans avoir essayé, ce n'est pas facile de...
Oui, en fait, j'avais très peur, par exemple, qu'on se lance dans tout ça et qu'au bout de je ne sais combien d'essais, on me fasse faire des examens et qu'on me dise « Ah ben, ça risquait pas de marcher ».
Oui, complètement. Voilà. Au même titre que finalement un couple hétérosexuel qui met du temps à découvrir son infertilité quand il y en a une.
Exactement. À la différence que nous, ça engendre des frais financiers...
conséquents.
Exactement. Donc en fait, je voulais m'éviter de vivre toute cette perte de temps et forcément d'argent.
Oui, ça je comprends complètement. Et puis, gérer de la déception et de la frustration.
Oui, exactement. Du coup, c'est pas ma spécialité. Voilà, si je peux me l'éviter,
oui,
je fais tout pour.
Et alors, est-ce que ça a été un déclic, ce discours de la sage-femme ?
Oui, parce que suite à ça, j'ai même pas été faire l'échographie. Je me suis dit, ben oui, c'est vrai, arrête de réfléchir. Et on y va, c'est parti.
Et donc, quand vous êtes orientée sur Krios, parce qu'avec Krios, tu as quand même la possibilité de passer par une clinique et d'avoir accès à ton donneur. Donc toi, tu avais vraiment dans l'idée, par contre, de fonctionner sur une insémination artisanale.
Oui. C'était pour moi le must du must. Que ce soit notre bébé fait par nous.
Maison.
Voilà. Krios nous offrait cette possibilité-là. Donc, je ne pouvais pas passer à côté.
Oui, c'est clair. Donc, vous commandez vos paillettes ? Comment ça se passe ?
Au premier coup, donc on a commandé les premières paillettes qu'on a reçues dans un énorme tank d'azote.
Ce cycle-là, vous l'avez ça a été directement le cycle suivant ton rendez-vous avec la sage-femme ou vous avez encore maturé le projet ?
Ça s'est enchaîné. Hein. Honnêtement, tout s'est enchaîné entre cet été-là et la première qu'on ait faite, on l'a fait au mois de décembre, la première.
Oui, donc c'est relativement, effectivement, c'est relativement proche. Hein.
Mm-hmm. Oui, tout c'est, sachant qu'entre-temps, ben, on a aménagé dans notre maison qu'on venait de construire, on a accueilli notre chien, enfin bref, on a tout enchaîné.
Dans le bon ordre.
C'était le moment.
C'était le bon moment.
Ouais, donc on l'a reçu. On a fait patienter tout ça dans le dressing.
Dans le dressing.
C'est quand même une expérience à vivre.
Oui, tu m'étonnes.
On en rigole beaucoup. Mais sur le moment, je me revois assise sur le bord de mon lit en disant à Charlotte, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?
Tu m'étonnes.
Est-ce qu'à un moment donné, on s'est imaginé, là, comme ça, avec des spermatozoïdes congelés dans le dressing ? Je crois pas.
Vous les avez gardés combien de temps dans le dressing ?
Le temps que mes tests d'ovulation nous disent que c'était l'heure.
D'accord.
Donc ça a duré 2-3 jours, quelque chose comme ça.
Oui, ça va. C'était pas bon. Tu les as pas gardés 4 mois dans ton dressing.
Non. Alors, de toute façon, c'est limité dans le temps, hein, le contenant. Donc c'est pour ça aussi que ça demande une organisation, enfin pour la commande, pour que ça tombe bien, pour qu'on le reçoive ben, pas trop tôt pour qu'il puisse être utilisable et pas trop tard et louper l'ovulation.
Oui, ben c'est ça.
Donc, c'est des grands calculs savants. Hein. On a fait plein de calculs, plein de tableaux pour croiser des informations et pour toujours tomber au plus juste. Donc, on a fait la première. Après, donc, calcul de mon ovulation, on pensait tomber à peu près juste. Sur ce cycle-là, on en a fait deux. On en a fait deux à 12 heures d'intervalle.
D'accord. Ça vous avait été conseillé d'en faire deux ?
Oui. Oui, oui. Disons que ça mettait un peu plus de chance de notre côté aussi.
Et du coup, vous aviez suffisamment de paillettes pour en faire deux ?
On en avait commandé deux à ce
D'accord,
moment-là.
D'accord, ok.
Il était possible d'en recevoir plusieurs, en fait, dans le même contenant.
D'accord.
Et de les, comment dire, décongeler.
Oui. Et comment tu décongèles ça ?
En fait, ça s'enlève. Enfin, il y a quelque chose où on tire dessus. Et en fait, c'est des sortes de petites fioles, je ne saurais pas nommer cette petite chose, qui sont contenues en fait dans ce tank. On peut les sortir au fur et à mesure.
D'accord, ok.
Voilà, on les pose à côté et on a un quart d'heure pour l'utiliser, pour qu'il décongèle et l'utiliser.
D'accord, ok, un quart d'heure. Ok, oui, c'est précis. Ça doit te mettre un peu la pression quand même, d'avoir l'impression d'être dans Mission Impossible.
Exactement.
Tu m'étonnes.
Donc on a fait ces deux premières. Donc, qui étaient des inséminations intravaginales, c'est-à-dire qu'on a juste à déposer les spermatozoïdes dans le vagin et qu'ils fassent leur job tout seuls comme des grands.
D'accord. Et du coup, c'est Charlotte qui a fait ça ?
Oui.
Vous êtes servi d'une pipette, quelque chose comme ça ?
Ils fournissent. Ils nous fournissent
génial. Le matériel.
Mais oui. Donc, ils nous fournissent à ce moment-là une seringue sur laquelle on met la paillette, et puis il y a un petit truc à préparer, mais tout est super bien expliqué, il y a un petit livret avec, tout est bien pensé.
D'accord, oui, c'est un peu...
Vraiment, on est dans un autre monde. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais quand on le vit, c'est fou de se dire qu'on fait ces choses-là.
Mais oui, c'est clair, surtout que, enfin, je ne sais pas si tu es issue d'une profession médicale, mais toujours est-il que, enfin, c'est pas notre quotidien, quoi.
Non, donc, du tout.
On a l'impression de transgresser plein de choses, mais en même temps, on se sent puissant. Fin...
Oui, sachant que, alors, par rapport à ça, au fait de transgresser, je suis quelqu'un de très droite.
Très droite, ouais.
C'est ça.
Je m'en doute.
Très stressée de tout. C'est-à-dire que moi, si j'aperçois la police, la gendarmerie au fond du chemin, je vais avoir l'impression qu'ils vont m'arrêter, qu'ils vont me trouver des choses alors que j'ai rien à me reprocher.
Pareil que toi.
Voilà.
Je vois bien.
Donc là... commander des choses accessoirement...
des gamètes.
Voilà. Sur la boîte qu'on reçoit, il y a quand même écrit « tissu humain ». Et je me dis, ça passe les frontières. Je me disais, non, mais demain matin, on va avoir la gendarmerie à la porte, c'est fini.
Mais t'as pas intérêt à ce que ce soit bloqué à la poste. Hein.
Non, c'est ça. On se disait, je me disais, mais on est des gangsters, en fait.
Ouais,
et moi,
je
ne le suis pas. Je ne suis pas une gangster dans l'âme.
Oui, c'est donc, ça. Frontièrement, c'est pas ta personnalité.
Du tout. Ah non, je suis beaucoup trop droite. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on y va, hein, on se lance.
Exactement. On fait des choses pour nos enfants, finalement, qui sont dingues.
C'est ça. Donc, on a fait les gangsters, on a reçu, nous avons fait l'insémination, les deux. Mm-hmm. Charlotte a ramené, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce tank qui pèse je ne sais combien de kilos, il faut le renvoyer à Krios.
Oui, tout à fait.
Donc là, voilà, repartir déposer dans son petit point relais le tank.
C'est vrai que ça arrive en point relais.
Voilà, elle me dit, j'espère que le monsieur qui l'a récupéré n'a pas trop regardé. Hein.
Oui, c'est sûr, si c'est indiqué tissu humain, j'imagine le buraliste, si c'est un buraliste, la tête qui doit faire.
Il y a écrit un gros crios dessus. Bref, il y a tout pour que on puisse se faire griller, en fait.
Oui, finalement, oui.
Et je crois qu'on peut se dire bienvenue en France, il se passe rien.
Oui, c'est ça. C'est le côté...
Et on nous laisse, ce que je me disais aussi, c'est que tout ça, sur le papier, est interdit. On s'en doute bien que tout ça
La manipulation de gamètes est interdite, oui.
Mais un pays est quand même capable de laisser passer aux frontières et laisser faire. On n'est pas les seuls en France à faire ça. On est très, 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 très nombreuses à avoir eu des enfants de cette façon-là. Donc je trouve ça aussi très particulier.
C'est le principe de ne pas légiférer. La zone est grise, on reste dans le gris.
Mais c'est pas plus mal, on va pas s'en plaindre à ce moment-là.
Non, c'est clair. Pour le moment, ne disons rien. C'est on peut avancer des choses, mais
exactement.
Voilà. Et alors ce premier essai
Ce premier essai, deux jours avant la date de mes règles, jour de Noël, ben, j'ai eu mes règles.
Ah mince, en plus en avance. Alors d'habitude, ça a tendance à être en retard dans ce genre de cas.
Oui, alors que j'étais sûre de moi. Pour moi, c'était obligé que ça ait fonctionné. Il n'y avait pas de raison que ça n'ait pas fonctionné. On avait tout fait comme il faut. Mon corps était prêt, ma tête aussi. Ça ne pouvait que marcher.
Si tu as eu tes règles 2 jours en avance, c'est que tu as ovulé 2 jours en avance.
Voilà.
Donc, ça ne pouvait pas fonctionner.
Voilà. Donc, grosse déception.
Je me doute.
Surtout pour moi. Ouais. Charlotte, plus objective aussi. Pour elle, elle me disait, mais c'est aussi la première fois. On le sait et c'est pas grave.
Vous vous étiez renseignée sur les statistiques de réussite ?
À ce moment-là, oui, je me souviens plus. Hein, mais oui. J'avais lu plein de choses, essayé de me rassurer par tous les moyens. Il y avait peu de chances que ça marche du premier coup comme ça.
Oui, complètement.
Mais on a toujours l'espoir que peut-être que pour une fois, nous, ça va passer du premier coup.
Oui, complètement.
Bon, ben non.
Et ça t'a pas trop stressé ou, enfin, toi qui avais peur que ton corps ne fonctionne pas, oui. Ça n'a pas augmenté cette peur ?
Bizarrement, non, en fait. Je crois que j'avais été bien rassurée et j'étais focus dans le projet. On y était.
D'accord.
On y était. Pour moi, on avait préparé, le terrain était prêt. Donc, j'ai été déçue. Voilà, déçue de ce négatif. C'était nul.
Oui, c'est sûr.
Voilà.
Mais bon, ça t'a pas fait remettre en question non plus la méthode utilisée. Enfin, voilà, vous repartiez dans un cycle suivant et c'était bon, quoi.
Alors, ça a remis juste en question le fait de passer en insémination intra-utérine.
D'accord.
En fait, on avait déjà lu avant de commencer, enfin pendant toute cette phase de recherche, que certaines femmes, certains couples passaient par des inséminations intra-utérines, soit aidées par des professionnels, voilà, qui faisaient ça, ben oui, forcément dans l'illégalité et qui soutenaient un peu ces couples-là à leur façon, ou soit de le faire soi-même.
Oui, alors il faut rappeler que l'insémination intra-utérine, c'est effectivement la méthode qui est utilisée dans le cadre des inséminations lors des PMA. Oui. C'est une manipulation médicale qui est particulière.
Ah oui, on est clairement dans la manipulation médicale.
Mm-mm.
Là, on n'est plus juste dans la question de la petite seringue qu'on met dans le vagin. Là, c'est clair qu'on passe un cap.
On passe le col, juste.
Exactement, on passe le col.
Ben, techniquement, c'est ça. Et, et toi, qui justement étais dans le... Ouais, pas forcément hyper sereine, hyper rassurée, tu envisages cette option-là.
Ouais.
C'est fou.
Parce que je crois que... Je dis beaucoup « je », évidemment, on est deux.
Et oui,
c'est vrai
évidemment.
Que comme c'est mon corps, à ce moment-là, je suis maître de beaucoup de choix, on va dire.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, Charles, dans tous les cas, elle était prête. Peu importe la méthode, elle était là, elle était à fond. Voilà. Et avant de faire les premières inséminations, on avait vu que certains le faisaient, mais ça nous impressionnait beaucoup. On disait, il y a quand même des risques.
Oui, évidemment. Ah oui, je me doute.
Il y a quand même des risques. On lisait certaines qui étaient vraiment contre, en disant, mais vous ne vous rendez pas compte des risques encourus en faisant de telles choses, et d'autres qui disaient, mais c'est jouable.
Je vous laisse mijoter une petite semaine encore pour découvrir la fin de cet épisode. Vous savez maintenant que ce n'est donc pas la fin de cet épisode et que mes épisodes sont séparés en 2 pour pouvoir vous produire des épisodes plus régulièrement. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me le notifier ou me gratifier de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et plus particulièrement sur Apple Podcast. Vous savez maintenant si vous me suivez sur Instagram, sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontbien, pourquoi c'est si important d'être vu par Apple pour pouvoir diffuser, partager et faire connaître le podcast par des personnes qui pourront le repartager à des personnes qui en ont besoin. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous souhaite une très belle fin de journée. Like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath.
less alone, less alone. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Ranks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.